un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002. Connaître Saint-André Hubert Fournet, état de la recherche sur le fondateur des Filles de la Croix, voici l'intervention de Claude Garda. Claude Garda a découvert le bon père il y a environ 40 ans lorsque sa famille a quitté l'Algérie pour s'installer dans le voisinage de l'Appuy. Il se plaît à rappeler que son contact avec le père André n'a pas été d'abord livresque, mais s'est établi grâce à la personne d'une humble fille de la Croix chargée d'accueillir à l'entrée du couvent de l'Appuy. Pour le garçon de 13 ans qu'il était alors, la bonté, la disponibilité de cette religieuse donnait de l'authenticité à ce qu'elle disait du saint fondateur de la congrégation. Il n'a jamais plus quitté le diocèse de Poitiers et au fil du temps, son attachement au sein de l'Appuy s'est approfondi par l'étude et la réflexion. Claude Garda est professeur agrégé dans l'enseignement public. Il s'est investi dans la recherche historique, notamment sur les saints du Poitou. Voici donc l'intervention de Claude Garda.
Le 6 décembre dernier, le matin, évidemment, comme vous, mes sœurs, j'ai pensé au père André pour son 250e anniversaire. Et deux images m'ont habité pendant l'office des Laudes. D'abord, je pensais à Dame Florence Elisabeth Fournet, sa maman, qui, 250 ans plus tôt, se penchait sur un berceau. Elle était loin, sûrement, de penser à ce qui allait arriver grâce à ce petit enfant. L'imprévu, l'imprévisible. Saint André, c'est le saint de l'imprévisible. Deuxième image qui m'habitait, beaucoup plus récente, ce sont les rues de Poitiers, le 30 novembre dernier, envahies par cette espèce de manif, les gens qui remplissaient la maison du peuple et qui descendaient en masse d'abord à la maison diocésaine pour le repas, puis le soir pour la si fervente et belle Eucharistie à Saint-Radegonde. Saint-André, et je pensais à Saint-André qui traversait Poitiers, bien souvent, quand il est revenu d'Espagne, et qui rasait les murs, en prêtre proscrit qu'il était. Là encore, je ne parlerai pas de revanche, mais d'imprévu. Lui-même ne se doutait sûrement pas de ce triomphe. Je ne parle pas du triomphe qu'il attendait 99 ans après sa mort, lorsqu'il fut au centre de la célébration magnifique à Saint-Pierre de Rome, le jour de la Pentecôte 1933, cœur de la chrétienté. Et il était à ce cœur-là. Autre chose, pour essayer de comprendre à quoi nous mènent ces images de l'imprévisible. Un saint comme André, c'est un peu, c'est même beaucoup, comme les vrais patriarches, dont la vie commence au moment où il meurt. Certes, pendant son existence terrestre, il a travaillé beaucoup, mais sa vie demeure comme celle des patriarches. Vous en êtes la preuve, vous qui êtes sa postérité, qui continuez sa présence. Et dans son éternité, André reste prêtre. Il n'est pas un saint dans le sens vague du terme, il reste prêtre, c'est-à-dire un rassembleur, 400 personnes à Poitiers. En lançant le colloque, nous pensions à une petite centaine de personnes. Saint-André est beaucoup plus connu et aimé que nous ne le pensons. Il y a une trentaine d'années maintenant, étant jeune étudiant à Poitiers, je rendais quelques petits services dans des maisons de personnes âgées. Notamment dans une maison de création récente, au Bon Repos, pas loin de votre maison provinciale, à la Cité des Sables. Et en entrant dans la chambre d'une vieille demoiselle, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais elle était parente d'une certaine Madame Vassena de Chauvigny, j'ai vu qu'au mur, il y avait une croix, pas d'illustration, alors que dans d'autres chambres, il y avait quantité de fanfreluches, même pas une statue de la Sainte Vierge, rien d'autre qu'une petite image de Sainte Élisabeth, Sainte Élisabeth Pichier des Âges. Évidemment, moi qui étais depuis l'âge de 13 ans, vous la rappelez, très attaché à l'appui, je lui ai dit, mais vous connaissez Sainte Élisabeth ? Oui, c'est mon amie. Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Je ne peux pas dire, mais certaines sœurs ici le savent, les grâces qui continuent à être obtenues par l'intercession de Saint André. Nous pourrions, sœur Madeleine notamment, vous en donner des détails bouleversants et très récents. Saint André reste prêtre parce qu'il est rassembleur et parce qu'il conduit à Jésus. 7 mois et demi après sa mort, apparut son éloge dans l'Ordo du diocèse de Poitiers. C'est un texte en latin qui n'est pas vraiment inattendu, puisque à l'époque, tous les prêtres décédés dans le diocèse, au cours de l'année écoulée, avaient droit à une mention dans le nécrologe annuel. Toutefois, concernant le père André, on est frappé par la longueur inaccoutumée de cet éloge, une 20aine de lignes, où se trouve condensé ce qui a frappé ses contemporains. Et là est révélé que l'on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Ce texte a été écrit très probablement par un jeune prêtre de 30 ans, l'abbé Charles-Antoine Cousseau, qui va devenir en 1850 évêque d'Angoulême. Et c'est lui qui a prononcé l'éloge du père André lors des funérailles dans l'église de l'Appui le 16 mai 1834. L'abbé Cousseau est alors professeur au grand séminaire de Poitiers et il a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois le père André. Quelques mois plus tard, toujours en 1835, donc un an seulement après la mort du père Fournet, le même abbé Cousseau publie de façon anonyme une 100aine de pages où il retrace la vie, je cite, « du pauvre prêtre mort il y a quelques mois dans une paroisse obscure du diocèse de Poitiers, cet homme à peine connu du monde, si modeste et si simple dans son extérieur, mais si noble et si grand par son cœur et par ses œuvres. » C'est la première biographie proprement dite du père André. C'est un récit plein d'admiration enthousiaste. Et nous voyons là le père André animé en toutes circonstances par la charité. Quelqu'un qui donne tout ce qu'il a au prochain à cause de Dieu et qui se livre ainsi lui-même à l'exemple de Jésus. Alors il y a un vœu que tous les amis de Saint André portent au cœur, c'est que cette vie, cette première biographie soit rééditée pour être rendue plus facilement accessible à tous. Cependant, avec le recul du temps, il n'est pas inutile que nous nous arrêtions un instant sur son sous-titre. Du père Fournet, le premier biographe dit d'abord qu'il a été l'instituteur, c'est-à-dire le fondateur, des filles de la croix. Au regard de l'histoire, c'est vrai. Encore que, si l'intuition et l'animation spirituelle de la nouvelle famille religieuse lui appartiennent, c'est plutôt à Sainte Élisabeth que nous devons rendre l'honneur du titre de fondatrice, d'organisatrice. C'est elle. Je le dis non pas pour créer une rivalité entre les deux, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est elle qui a été et qui est encore aujourd'hui l'âme de la congrégation. Le sous-titre de cette première biographie attribue au père André aussi la qualité de vicaire général. Alors quand on cherche dans les 100 pages la justification de ce sous-titre, on ne trouve strictement rien. Autrement dit, ce titre de vicaire général était une distinction plutôt honorifique. Certes, et M. Marcadet vous le dira tout à l'heure, le père André a agi au nom de l'autorité diocésaine, dans certains cas, très rares, 2 ou 3 fois. Donc, vous pouvez lui reconnaître le statut de vicaire général. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ce qu'est maintenant un vicaire général. Alors, en dernier, dans le sous-titre, il est fait état de ses fonctions de curé de Maillé. Un peu comme si c'était le moins important. Alors que le père André a assumé la charge de curé pendant la majeure partie de sa vie. Et que tout ce qu'il a réalisé, à commencer par l'institution de votre congrégation, s'enracine dans son âme de pasteur. Un pasteur que taraude tout autant que le souci du salut des âmes la hantise des conditions de vie inhumaines autour de lui. Autrement dit, c'est parce qu'il est curé, et pensons au sens étymologique du terme curé, curare, celui qui prend soin, qui soigne, c'est parce qu'il est curé qu'il fonde les filles de la croix. Ainsi pouvons-nous maintenant réaliser que le premier biographe et ceux qui viendront après lui, on sans doute pensait lui faire honneur en mettant au premier plan un rôle prestigieux de fondateur. Mais ce faisant, ils ont quelque peu minimisé l'essentiel. On s'en aperçoit au fait que les activités pastorales du père André, que l'on dirait maintenant simple prêtre de la base, sauf en ce qu'elles ont d'héroïque et d'extraordinaire pendant la Révolution. Ces activités pastorales tiennent beaucoup moins de place dans les récits publiés que ces fonctions de fondateur et d'animateur spirituel des filles de la croix. Et il y a là, il faut bien le reconnaître, un certain gauchissement. Est-il nécessaire d'ajouter que si l'on rétablissait l'équilibre, autrement dit, si l'on mettait l'accent sur le fait qu'il était avant tout un prêtre, et que c'est cela qui explique son engagement, son ardeur, ses intuitions, la sainteté du père André n'en sortirait pas du tout amoindrie. De plus, ce qu'il a à nous dire aujourd'hui gagnerait en intensité, puisque, vous le savez, le passé est plein de leçons utiles, opportunes pour le présent, à condition que l'on considère ce passé tel qu'il est, et non pas avec un regard déformant. Après cette première biographie, qui date d'un an seulement après la mort du père André, il faut attendre une 30aine d'années pour voir paraître un nouvel ouvrage qui qui lui soit entièrement consacré. Et ces années de relatif silence sont celles où se propage discrètement la réputation de sainteté du Père André et où sont engagées les premières démarches en vue de la béatification. De novembre 1854 à janvier 1856, première enquête menée à la demande de l'évêque de Poitiers, Monseigneur Pie, très attaché à l'appui, sa maman repose dans le cimetière, là, et Monseigneur Pie avait demandé que son propre corps soit enseveli dans la chapelle, vous le savez, au cas où la sépulture devant l'autel de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers ne serait pas possible. Évidemment, sa dépouille repose là-bas. De ces procès, première démarche, procès informatif, qui va durer jusqu'à 1870, résulte une série foisonnante de souvenirs et de témoignages très fiables, parce que donnés sous serment. On ne ment pas à un procès en béatification. La matière de ces souvenirs va servir au deuxième grand biographe du Père André. Et nous voilà à la deuxième biographie, celle de 1873. Ce deuxième biographe, c'est le chanoine Rigaud, Sylvain Raphaël, qui publie en 1873 l'ouvrage fondamental. Son titre, « Vie du bon père André Hubert Fournet, fondateur et premier supérieur général des filles de la croix, dites sœurs de Saint-André ». C'est un auteur, le père Rigaud, qui a donné la preuve déjà de ses talents littéraires et de son souci de l'exactitude, avec deux volumes de relations de pèlerinage et surtout avec la vie de sœur Élisabeth qu'il vient de terminer. Et il donnera encore la vie du père Gaillard, fondateur des sœurs de Salvaire. Le chanoine Rigaud se trouve bien placé pour écrire sur le père André. En effet, il est oblat de Saint-Hilaire et les oblats de Saint-Hilaire sont aumôniers du couvent de l'Appuy. Depuis 1858. Ils ont même à l'appui leur noviciat depuis 1859. Le père Rigaud a donc plus que d'autres tout loisir de consulter les historiques manuscrits que les sœurs conservent à la maison mère et de compléter son enquête personnelle en interrogeant les survivants qui ont connu le fondateur. À ce propos, j'y repensais l'autre jour, Saint-André nous paraît loin. Mais en fait, imaginez un peu mon émotion quand M. Guillotot, Marcel Guillotot, que vous connaissez, les sœurs qui habitent l'Appuy, m'a dit, il était au colloque le 30 novembre, « Vous savez, mon grand-père a été catéchisé par le père Fournet. » Ah, tout d'un coup, j'ai vu deux personnes seulement entre le père Fournet et moi, M. Guillotot et son grand-père. Et c'est ainsi que je fais un excursus. Mais nous sommes entre nous, c'est plus facile qu'à Poitiers. Peu de gens nous séparent de ce qui nous paraît parfois très loin. On a compté les générations, par exemple, entre les apôtres, le Seigneur, et nous. Mais il n'y a même pas 70 personnes, l'une derrière l'autre. Et la 71e, ce serait le Seigneur. Je reviens au père Rigaud. Son travail a l'avantage de rendre public, pour la première fois, beaucoup d'écrits du père André. Des lettres, des instructions aux sœurs, et même des prières, où se reflète très bien la physionomie spirituelle du père Fournet. Mais, détail significatif, la qualité de curé a disparu complètement du titre du livre, au profit des seules qualités de fondateur. Alors, on ne parle plus de vicaire général, bien entendu, c'était un mensonge trop grossier, ça. Et de supérieur. Et même si le contenu de l'ouvrage n'escamote pas les activités pastorales du père André dans les paroisses, on observe qu'il montre en lui un prêtre attaché à relever les campagnes de Maillé et de l'Appui, ruinées à tout point de vue par la Révolution. D'où la tendance qui va s'affirmer nettement chez le père Sobat, quelques décennies plus tard, à magnifier le courage du réfractaire et son ministère clandestin, ainsi qu'à faire de lui l'artisan d'une renaissance religieuse dont l'idéal serait en somme de réparer les dommages subis par l'Église sous la Révolution. Réparer. L'idée de réparation, elle est certes bien présente dans les écrits du père André, mais elle n'est sûrement pas la clé de sa spiritualité. Pourtant, elle va prendre de plus en plus de place. Et cette façon de présenter les choses ne résiste évidemment pas au démenti qu'apportent les sources dans leur ensemble et la personnalité même du père André, qui est totalement étranger aux imbrications qui ont pu exister, ça et là, entre renaissance religieuse et restauration politique. Presque un demi-siècle s'écoule ensuite, jusqu'à la béatification, 1926, dont l'approche soulèvera une vague de publications. En attendant, le procès de la recherche des écrits du père a lieu le 21 janvier 1876. Ce jour-là, à Poitiers, est dressée la liste de tous les autographes du père que l'on a pu se procurer. Des recherches ultérieures au XXe siècle, ou d'heureux hasards, révéleront des oublis, sans d'ailleurs que les papiers retrouvés, rassurez-vous, retrouvés trop tard pour être consignés dans les procès de béatification et de canonisation, jettent la moindre ombre sur la foi et les mœurs de notre saint. Passons sur les procès qui suivent l'introduction de la cause à Rome, le 19 juillet 1877, laquelle cause va traîner en longueur. Durant cette période, très peu de livres s'intéressent à celui que l'on appelle désormais, puisqu'on a reconnu l'héroïcité de ses vertus, le vénérable André Hubert Fournet. Le centenaire de l'installation des Filles de la Croix à l'Appui, en 1920, donne lieu à la publication du travail consciencieux d'une religieuse de la maison mère, Deodata. La deuxième partie de cet ouvrage, en traitant de la fondation de la congrégation et de ses débuts à l'Appui, révèle quantité de détails sur le père André. Les recherches de cette religieuse, fort méritante, auront également été mises à profit par le père Jules Sobat, auteur de la troisième biographie en 1924, postulateur de la cause depuis octobre 1918. C'est un prêtre du Sacré-Cœur de Bétharram. Il est consulteur de la Congrégation des religieux depuis 1910, procureur général de sa congrégation à Rome depuis 1920. Ses fonctions officielles lui ouvrent beaucoup de portes dans les plus hautes sphères du Vatican. De plus, il avait la confiance du pape Saint-Pie X. Si la cause avance après la Première Guerre mondiale, il faut bien reconnaître que c'est grâce au père Sobat. En ce qui concerne son travail de biographe, aux données qu'il tient de ses devanciers, il ajoute ce qu'il a puisé dans les dossiers des procès canoniques et il publie, alors que se profile la béatification, l'ouvrage apparemment le mieux documenté, en tout cas le plus volumineux, 1000 pages en 2 volumes. Mais ce n'est pas l'ouvrage le plus irréprochable. Le père Sobat ne prend pas de précautions pour fustiger les révolutionnaires. C'est la première chose qui frappe, ça, quand on le lit et qu'on le relit. J'ai dû lire le père Sobat une 10aine de fois. Parce que bien sûr, il a l'avantage de vous donner quantité d'anecdotes. Et tout le mérite ne lui en revient pas. Le mérite revient à ceux qui ont témoigné. Car il cite beaucoup les témoins qui ont déposé sous serment dans les procès. Et cette hargne contre les révolutionnaires me paraît tellement éloigné du cœur du Père André. Le Père André n'a jamais eu un seul mot dur contre ceux qui lui ont nui. Il répondait à l'injure par la compassion. Et il allait jusqu'à témoigner encore plus d'amour à quiconque lui avait fait du mal, beaucoup plus grave. C'est l'importance capitale que le Père Soba donne à l'idée de réparation. Et insensiblement, on passe de l'idée de réparation matérielle, il faut réparer l'Église qui tombe en ruine, à l'idée réparatrice au sens spirituel du terme. L'idée réparatrice, on la trouve incontestablement dans la spiritualité du Père André, mais elle ne constitue pas le foyer central de sa vie spirituelle. Précisons au passage que la note réparatrice est l'une des retombées de la dévotion au Sacré-Cœur qui caractérise davantage la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle que l'époque du Père André. En somme, tout se passe comme si le biographe faisait entrer coûte que coûte l'objet de son étude dans le cadre de sa propre expérience de l'histoire. Et l'erreur saute aux yeux. Il y a là plus qu'une illusion d'optique, il y a là un véritable anachronisme du point de vue spirituel qui nous empêche de connaître vraiment le Père André si nous nous en tenons seulement à ce que dit le Père Soba. Sa hargne dont je parlais tout à l'heure contre la Révolution s'explique par ses opinions politiques personnelles. On peut le dire maintenant, le Père Soba était un réactionnaire, un homme d'extrême droite, la plus extrême. On a publié il y a 2 ans le 7e volume des carnets du cardinal Baudrillard. C'est ruineux d'ailleurs, parce que c'est énorme et ça n'en finit pas. Et alors, en lisant ces carnets, j'ai rencontré plusieurs fois le nom du Père Soba, mêlé au problème de l'Action française, en révolte contre le pape Pie XI à l'époque. Déformation due sans doute à ses fonctions de postulateur. Le Père Soba veut moins montrer le Père André que démontrer sa sainteté. Alors forcément pour nous, maintenant que l'Église s'est définitivement prononcée avec la béatification et la canonisation, cet aspect a quelque chose de rebutant. On est tellement éloigné de la spontanéité chaleureuse des premiers témoignages quand on lit le Père Soba. Ou alors, il faut réussir à sauter ce que j'appellerais la sauce Soba, hein, qui relie entre eux les témoignages qui, eux, ont toute leur saveur. Si l'on veut avoir une idée de l'état d'esprit dans lequel le Père Soba considère son candidat à la béatification, il suffit de regarder de près le discours qu'il adresse au pape Benoît XV le 10 juillet 1921. À le lire, le Père André, je cite, je ne triche pas, est un fils de la vieille noblesse du Poitou. Il l'appelle même Fournet de Thoiré. Et il fait semblant de croire, semblant, hein, il ne le croit pas, il sait très bien que c'est de la fausse noblesse. Il fait semblant de croire que c'est un titre de véritable noblesse, alors que c'est un usage pris au début du XVIIIe siècle par les familles roturières d'ajouter à leur nom le nom de la terre. Il n'y a aucun quartier de noblesse là-dedans. Le grand-père d'André est marchand. Il vient de Provence. Du côté de sa mère, il n'y a pas de noblesse non plus. Fils de la vieille noblesse du Poitou. Un prêtre qui fait la fierté du clergé du diocèse de Poitiers parce qu'il représente Je cite, les prêtres persécutés, tourmentés, poursuivis, traqués comme des bêtes fauves au jour de la plus cruelle persécution, et il mérite que lui soit donnée une revanche par l'Église, puisque celle-ci, là on croit rêver, celle-ci est l'éternel vengeur du droit méconnu et de la vertu opprimée. Les bras nous en tombent. Rien, absolument pas un mot sur le ministère sacerdotal du nouveau vénérable, encore moins sur ses intuitions pastorales. Voilà le père André réduit à n'être plus qu'une victime emblématique du conflit entre la société civile et l'Église, entre le monde et Dieu, alors que toute sa vie de dévouement prouve qu'il ne regardait pas le monde comme un ennemi à combattre, mais plutôt qu'il se vouait à servir Dieu dans le monde, parce que Dieu aime ce monde et qu'il veut le sauver. Ne soyons toutefois pas trop sévères avec le père Soba. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il s'est trompé. Ce n'est pas par méchanceté. Il aimait sincèrement le père André. Il a fait aboutir sa cause. Nous lui en sommes reconnaissants. Mais pourquoi s'est-il trompé? Le père Soba est lui-même la victime d'une situation historique qui ne facilite ni l'objectivité, ni les jugements sereins. À l'époque où le père Soba écrit sur le père André, nous sommes au temps de la Troisième République et d'un anticléricalisme assez virulent, où une Église sans cesse sur la brèche et une République ouvertement hostile au Saint-Siège, le cartel des gauches va arriver au pouvoir en 1924, ont entretenu pour longtemps, hélas, des rapports de rivalité. Et en raison de ce climat conflictuel, l'image que l'on se fait alors du père André est certainement une image déformée. Parce qu'il n'est jamais facile de regarder le passé en faisant abstraction du présent. Le plus navrant dans l'affaire, c'est que ce sont des gens d'Église qui en portent la responsabilité. Peut-être par suite d'une collusion plus ou moins consciente et en tout cas bien imprudente avec certaines catégories sociales qui ont contribué à assurer le financement très lourd des procès de béatification et de canonisation. On reste pensif en se rendant compte que le père André, qui est pourtant par excellence le saint des pauvres, on dirait aujourd'hui le saint des exclus, puisqu'il a été exclu lui-même, a été en quelque sorte récupéré, voire confisqué par les nantis de ce monde. Et les nantis de ce monde dans l'Église. La béatification et la canonisation ont ressemblé à des coups d'arrêt involontaire à la recherche historique. Après 1926, il n'y a presque plus rien de publié sur le père André, sinon quelques petits écrits de valeur parfois, mais de peu d'importance en volume. Est-ce par sentiment que tout a été dit sur lui et que plus rien de nouveau ne reste à découvrir ? C'est vrai que pas mal de chercheurs ont dû être intimidés en regardant l'ouvrage du père Soba. Comment faire pour faire mieux que le père Soba ? Peut-être parce qu'on raisonnait en termes de quantité. Les érudits poitevins ne font pour ainsi dire jamais porter leurs recherches du côté du père André. Il y a quelques exceptions. L'archiviste, par exemple, Joseph Salvini, qui a trouvé aux archives de la Vienne un dossier contenant des lettres du père André qui avaient échappé au procès de béatification. Et moi-même, tout à fait par hasard, alors que je cherchais tout à fait autre chose, aux archives diocésaines, dans un dossier de Chauvigny, j'ai trouvé une lettre du père André. Je me souviens du père Peignot, le chancelier à l'époque, chancelier de l'évêché, qui me disait ne la remettez pas dans le dossier, on va l'encadrer, on va la mettre dans la chapelle de l'évêché, hein, parce que c'est une relique. Et non, elle est retournée dans le dossier de Chauvigny, parce que c'est là que je l'ai publié, et ça concernait la paroisse de Sainte-Radegonde en Gâtine. Et il y a d'autres exemples, hein, de lettres inédites du père André. Une occasion a été ratée en 1962, quand l'écrivain Louis Chaigne a publié un ouvrage sur le père André, La fierté de la croix. Mais alors, je n'ai pas cherché à savoir si Louis Chaigne s'était dévoué de lui-même à Saint-André ou si on lui avait demandé d'écrire sur lui. En tout cas, le choix n'était pas judicieux si on lui avait demandé, parce que Louis Chaigne a trop écrit et surtout, c'est un polygraphe. Vous verrez dans les actes la liste de ses travaux, enfin, ça va dans tous les sens, mais on sent bien qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps matériel d'approfondir. Alors il s'est contenté, il l'avoue lui-même d'ailleurs, simplement, il s'est contenté de recopier Soma. Donc il a continué la déformation, il a répété. Et son livre, bien qu'il n'ait que 40 ans, est devenu illisible dans la mesure où il ressemble à ces livres, vous savez, de genre hagiographique, pas tellement biographique, littérature édifiante, qui n'édifie pas du tout. Parce que nous avons besoin de vérité. L'Église n'a pas peur de la vérité, comme disait l'évêque de Lourdes au moment des apparitions. La même année, 1962, un magazine catholique d'audience nationale parle assez longuement de lui. C'est la vie spirituelle, pas n'importe quoi. Mais c'est malheureusement pour ne s'intéresser qu'à l'un des phénomènes extraordinaires qui ont émaillé le ministère du Père André, au risque de centrer l'attention sur ce qui n'est pas l'essentiel. Et il y a un goût grandissant actuellement du public pour le merveilleux, alors avec tous les guillemets que vous voudrez. Et on remarque que Saint-André apparaît assez souvent dans les articles ou dans les livres traitant de lévitation, multiplication de vivres, notamment dans un livre de Jean Guiton, mais pas n'importe qui pourtant. Et alors je dirais, alors là j'exprime mon opinion personnelle, donc elle n'a peut-être pas beaucoup de valeur, c'est un peu dommage de ne retenir d'André que cela. Alors ces faits sont incontestables. La lévitation constatée par plusieurs témoins, plusieurs dizaines même. Un jour de mission, vous savez, bon, vous connaissez l'anecdote, il y avait une petite foule autour de lui qui a vu cela. La multiplication des vivres, c'est évident aussi, c'est incontestable. Donc on ne peut pas discuter. Si je dis que c'est dommage, c'est que ces signes-là ne sont que des signes. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'ils signifient. Je ne vais pas faire de linguistique ici, mais il y a une différence quand même entre le signifiant et le signifié. Hein ? Le signe merveilleux, c'est un signifiant. Ce qui compte, c'est l'amour du Père André pour le Seigneur et pour les pauvres. Voilà le plus important. Et ça n'apparaît pas dans les livres et les articles qui se multiplient actuellement et qui s'attachent au spectaculaire, ce qui se voit, mais qui ne change pas la vie. Si nous faisons abstraction de cet intérêt ambigu pour le surnaturel, nous constatons que depuis 20 ans, un silence à peine interrompu de temps en temps s'est installé autour de Saint-André Fournet. En 1983, pourtant, l'Osservatore Romano lui a rendu l'hommage exceptionnel de toute une grande page. Pensez si j'ai été heureux de voir cela, je vais découper. L'année suivante intervenait le 150e anniversaire de sa mort. Et Mgr Rosier m'avait demandé à l'époque de publier en sorte de feuilleton dans la semaine religieuse des pages regroupant des choses intéressantes sur le père André. Je lui avais dit, on va prendre le plus important, on va lui donner la parole. Et alors j'ai publié des extraits de sa correspondance pour que les diocésains entendent ce que le père André a à nous dire. À l'intention des jeunes lecteurs, une fille de la croix, ici présente peut-être, sœur Simone, a publié en 1994 un livret qui fait le bonheur des adultes aussi. Et je le dis sans forfanterie, c'est pas mon genre. Les professeurs ne savent pas flatter. Les amis de Saint-André reconnaissent dans ce fascicule le vrai visage de Saint-André. N'oublions pas quelques parutions à l'étranger, puisque la postérité religieuse du père Fournet a traversé l'Atlantique, une traduction en anglais du livret de sœur Simone, un livre aussi publié au Canada, un livre récent dont j'ai appris l'existence par votre supérieur général et par sœur Madeleine, publié en Italie par le recteur du Collège Capranica de Rome, avec un beau titre, un extraordinaire petit prêtre. J'aime bien petit prêtre, mais j'aurais dit ordinaire. C'est parce qu'il est très ordinaire qu'il en est extraordinaire. C'est ça le secret de la sainteté d'André. C'est faire les plus humbles choses, enfin. Mais jusqu'au bout. Enfin, parmi les plus récentes publications régionales, il y a un excellent guide où sœur Madeleine et Christian Barbier nous font redécouvrir les chemins parcourus par le père André. Alors l'énumération que nous venons de faire pourrait laisser croire que plus rien ne reste à entreprendre pour mieux connaître votre fondateur. Et si nous voulons être fixés là-dessus, il faut commencer par nous demander comment on peut tenter de savoir au juste qui était tel ou tel disparu. Un homme du passé se révèle d'abord par ses écrits, puisque, sauf apparition, il ne nous parle pas directement. Alors ses écrits, vous les avez dans le recueil des lettres publié en 1969. 175 lettres. Ce recueil, il est utile, à défaut de mieux, parce qu'il y a beaucoup d'autres inédits. Il faudrait un apparat critique, car on peut identifier pas mal de destinataires. On peut inférer de certaines données les dates, ce que le père André avait l'habitude, comme pas mal de saints, de ne pas dater. Il vivait dans l'intemporel et corrigeait aussi certaines erreurs de lecture. Je crois qu'on peut souhaiter, et je pense d'après la carte de vœux que m'a envoyée sœur Ketty, que c'est quelque chose qui va se faire dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent. Je pense qu'un travail d'équipe serait nécessaire là. Et le colloque a réuni autour de Saint-André quelques chercheurs, groupes qui pourraient s'élargir. Il ne faut pas en rester là. C'est trop bien parti pour que ça s'arrête. Les lettres de Saint-André sont importantes parce qu'elles nous restituent sa voix. Je ne veux pas vous l'apprendre à vous. Il y a des paroles de feu dans ce qu'il dit. Mais il n'y a pas de rhétorique. Il n'y a pas de grandiloquence. André ne joue pas à parler comme Bossuet. Non. Il a le charisme des paroles simples. C'est le langage des pauvres. C'est le langage de l'Évangile. De même qu'à l'époque où il a vécu, l'Église de France connaissait une extrême pauvreté, encore plus pauvre qu'aujourd'hui. C'est, je pense, notre évêque, notre archevêque, qui le rappelait dans son homélie, un prêtre pour un rayon de 40 ou 50 kilomètres. Qu'a fait le Père André ? Il a utilisé les moyens de l'Évangile, c'est-à-dire les moyens les plus pauvres. Une poignée de jeunes filles, c'est-à-dire, entre guillemets, la race à l'époque encore méprisée, qu'on ne compte pas, la femme ne compte pas. Quelle intuition ! C'est le génie de l'Évangile, ça. Un homme du passé se révèle aussi à travers les témoignages de ceux qui l'ont connu et qui ont rapporté ses paroles et ses actes. Alors Soba, qui cite beaucoup de témoignages, ne les cite pas tous. Il serait intéressant, si nous constituions une équipe de travail, de relire, parce que là, ça demande du travail. On a le double aux archives diocésaines, sans courir jusqu'à Rome. On a le double des enquêtes canoniques pour les procès. Il faudrait les relire et pointer les témoignages qui n'ont pas été recueillis par Soba. Ce serait très intéressant. Et ça compléterait le portrait du Père André. Complété aussi par les historiques de l'abbé Philippe Morisson, qui a connu le Père André et Élisabeth. Historique aussi du Père Louis Matté, qui a beaucoup travaillé ici à l'appui. Et ces manuscrits sont conservés dans vos archives. Aussi important, sinon plus, que les paroles, il y a les actes. Et pas seulement les actes que l'on remarque, mais ceux du quotidien, puisque je vous parlais de l'ordinaire tout à l'heure. Les actes qui nous rapprochent du Père André et qui nous empêchent de le figer en statue ou en saint de vitrail. Car il faut qu'on le voie, qu'on l'entende tel qu'il était, sans chercher à le rendre plus joli. En a-t-il besoin d'ailleurs ? Je peux dire cela, que le Père Talbot m'a obligé à dire en public, et j'en avais un peu honte au moment du colloque. Le Père André n'a jamais signé, pas une seule fois, ses lettres ou ses écrits André Hubert. Jamais. Il signait simplement André. Quand il s'adressait à vos sœurs aînées, à vos devancières, et Fournet, tout simplement, quand il écrivait à des confrères ou à des messieurs. Et tous les témoins, tous, l'appellent le Père André, assez rarement l'abbé Fournet ou le Père Fournet. Pourquoi ? A posteriori, le paré du prénom composé André Hubert, pourquoi avoir tiré d'un juste oubli son deuxième prénom de baptême ? Je vous parlais tout à l'heure de la confiscation du Père André par les nantis de ce monde. Au moment où on a parlé d'André, au lieu de le laisser parler, lui, sévissait dans l'Église la mode bien séculière, qui faisait ressembler les responsables de l'Église, les pasteurs, à des obéraux ou à des seigneurs, les évêques à des préfets. Pour faire bien, il fallait porter un nom composé, si possible la particule. Et si on n'avait pas la particule, on prenait un prénom composé. Ça faisait noble. Autant la famille de Sainte Élisabeth, que j'aime de tout mon cœur aussi, est d'authentique noblesse. Jamais le Père André n'a fait partie de la noblesse. Sa vraie noblesse n'est pas là. Elle n'est pas dans le titre. Ah, dans sa jeunesse, jeune prêtre, avant sa conversion, il a signé de temps en temps de Toiré ou Toiré. Hein ? Eh, il était encore rempli de la vanité du monde. Ça nous donne confiance, parce qu'on peut dire, mais on peut changer, hein, comme lui, espérons-le. Le père André est un converti. Alors ça, c'est ce qu'il faut montrer dans une biographie à écrire. Je n'envie pas sœur Madeleine qui s'est attelée à ce travail. Elle doit souffrir, parce que c'est une tâche quasi impossible. Tellement André est simple, et c'est la simplicité qui est dure à restituer. C'est ce qui a la fraîcheur de l'Évangile, quoi. On ne peut pas le redire, il faut être Saint Jean qu'on fait aujourd'hui pour le dire. C'est très dur autrement. C'est un converti qui est, j'allais dire, obsédé par l'idée de renoncement. Cette idée de renoncement qui le poursuit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est ce qui nous montre que sa vie n'est pas statique. Ça avance et ça se transforme sans arrêt. C'est une histoire. Ce n'est pas un état. Quand nous voyons sa statue, bon, c'est fixe, c'est permanent. André, c'est une histoire en mouvement. C'est une dynamique. Sa vie est quelque chose de fougueux. Et ça me frappe de plus en plus. De jeune. Jusque dans ses vieux jours, par cette ardeur qu'il a, le sens qu'il a d'une mission dévorante. On l'entend presque dire, nunquam satis, jamais assez, tant dans la prière que dans le service des autres. Ben, c'est ce qu'il répond d'ailleurs à ses filles lorsqu'il est déjà sur son lit de mourant. Les pauvres sont là, combien faut-il donner? Donner à pleine main, jamais assez. Le mouvement. Alors ça, c'est dur à montrer dans une biographie. Très dur. Et cette jeunesse du cœur, elle franchit les siècles. Elle fait penser à ce que disait le pape Jean-Paul II à Lisieux. Les saints ne vieillissent pratiquement jamais. Ils témoignent de la jeunesse de l'Église. Et alors cela, sœur Françoise vous l'a dit tout à l'heure, on l'expérimente quand on prie avec le Père André, quand on le prie, quand on lui parle, quand on prie avec lui, tout cela veut dire à peu près la même chose. Autrement dit, quand on vit avec lui. On vous le rappelait tout à l'heure, bon, il y a 40 ans que je le connais et que je l'aime, je ne prétends pas avoir fait le tour de sa personne. Il m'étonne toujours. Il a quelque chose de percutant, qui vous secoue, qui vous réveille. Mais aussi, et c'est là la grâce que tous ses amis connaissent, il y a une tendresse à son contact. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le bon père. Alors je sais bien que cette expression était galvaudée au XIXe siècle. Beaucoup de prêtres étaient appelés le bon père. Et pour lui, je dirais que « bon » est à prendre dans toute la richesse du terme. Je terminerai comme je l'ai fait à Poitiers, parce que, tout simplement, chaque fois que j'entends ces mots de la préface de certaines messes de semaine, quand le prêtre dit les mots que je vais vous redire, je pense irrésistiblement au Père André. C'est la préface des saints. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et c'est vrai, ça. Et dans leur intercession, un appui.
Connaître Saint-André Hubert Fournet, état de la recherche sur le fondateur de la congrégation des Filles de la Croix, vous venez de suivre l'intervention de Claude Garda. Un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André Hubert Fournet, fondateur de la congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002.